Le point de Max, l'actu du jour avec une touche de la bouche.
10h41 dans le point de Max à Boulevard, 418-971-1016 s'il se passe quoi que ce soit, si vous voulez réagir, si vous avez des questions pour nos invités. Ça continue de se développer, cette course à la chefferie de la coalition Avenir Québec. On est en conseil de ministres aujourd'hui, fait que les journalistes en profitent pour attendre les députés puis leur poser des petites questions, notamment Bernard Drainville qui a dit qu'il songeait à se lancer parce qu'il pense qu'on a besoin d'une force nationaliste, d'une force politique nationaliste et économique au Québec. Pense que ça nous prend un parti qui est près des régions, qui pense aux familles, qui agit pour les familles, qui gouverne pour le monde ordinaire. Et on va en parler de Bernard Drainville avec notre invité parce qu'elle signe ce matin une chronique dans le journal titrée « Bernard, lâche-nous avec le gouvernement des régions ». Fait que le timing est pas pire. Émilise Lessard-Terrien, ex-députée de Québec solidaire et chroniqueuse au journal. Salut!
Bonjour, ça va bien?
Yes, ça va bien, toi?
Oui, merci.
Fait que tu cites dans ta chronique Bernard Drainville qui dit que la CAQ doit rester fidèle à ses racines, un parti proche des régions qui défend leurs intérêts. Puis dans les dernières minutes devant les journalistes, il est allé un peu dans le même sens en disant qu'il songeait à se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ. Mais ce que je comprends de ta chronique, c'est que tu t'attaques pas à Bernard Drainville directement. Tu attaques surtout le fait que, OK, lâchez-nous, arrêtez de nous dire que la CAQ, c'est un parti des régions, là, c'est pas vrai.
Exactement. Dans le fond, moi, j'ai côtoyé proche ce gouvernement-là pendant les 4 années où j'ai été députée à l'Assemblée nationale du Québec, députée de région. Puis, je te dirais que mon grand constat après ces 4 années passées-là, ça a été, oh my God, on est dans la pleine continuité du gouvernement de Philippe Couillard, le gouvernement libéral qui avait extrêmement fait mal aux régions du Québec. Mais là, la CAQ avait comme une petite saveur un peu plus nationaliste. Puis, les 4 dernières années, dans leur deuxième mandat, ils n'ont pas non plus démontré que c'était un gouvernement qui était là pour les régions du Québec. On n'a qu'à penser à la centralisation encore dans le réseau de la santé. Ce gouvernement-là s'est présenté en disant « Oui, on va décentraliser, on va ramener du pouvoir dans les régions. » Ben, Santé Québec, on est vraiment à l'antithèse de ça. Les décisions sont de plus en plus prises à Québec. L'état de nos services publics dans toutes les régions du Québec, que ce soit ici en Abitibi-Témiscamingue, mais dans l'est aussi du Québec, des épisodes de découverture dans les services d'obstétrique, les urgences qui sont obligées de fermer plus tôt, la main-d'œuvre qui est en sous-effectif encore, il n'y a pas de plan pour développer, pour dynamiser les régions. François Legault s'est aussi mis les pieds dans les plats en parlant de la foresterie avec les tarifs douaniers, en baissant les bras, en disant ah, « ben, écoutez, vous savez quoi, la foresterie, ça se passera pas, il va falloir convertir ces jobs-là dans autre chose », alors que l'industrie forestière, c'est un moteur économique tellement important pour les régions. On dirait, moi, j'ai vraiment trouvé que ce gouvernement-là avait une vision très passéiste, très colonialiste des régions, c'est-à-dire que on a de l'intérêt pour les régions quand il s'agit de parler de leurs ressources naturelles, évidemment les mines en premier, en tête de liste, mais pour le reste, pour le développement, pour le maintien des services, pour une occupation dynamique du territoire, ce gouvernement n'était pas là du tout. Alors, quand Bernard Drainville a annoncé qu'il était en réflexion, en voulant se distinguer là, de ses autres collègues, là, puis en parlant, oui, faut rester fidèle à nos racines avec le gouvernement des régions, mais de qui on parle exactement, ouais. De quels intérêts. Donc, évidemment, ça me fait bien sourciller.
Est-ce qu'il y en a, Émilie, des partis qui s'intéressent vraiment à ce qui se passe dans nos régions? Puis là, bon, tu vas peut-être prêcher pour ta paroisse, étant une ancienne députée de Québec solidaire, mais est-ce qu'en bout de ligne, on est un peu pogné dans une tendance qui fait que le gouvernement, peu importe la couleur, va surtout s'intéresser à Montréal puis des fois un peu à Québec?
Ben, c'est clair que peu importe les partis, on est beaucoup en ce moment dans une politique qui est axée effectivement sur les grands centres, sur les grands pôles urbains, notamment parce que il y a un déficit de représentation des gens des régions dans justement les instances politique. On peut même regarder, tu sais, la CAQ, ils ont fait élire beaucoup de députés en région. C'est la formation politique qui est la plus représentée en région. Mais au Conseil des ministres, c'est pas nécessairement les députés de région qui siègent autour de la table. Et même à ça, il y a plein de députés qui sont élus dans les Laurentides ou dans la Mauricie ou ailleurs qui ne sont pas des députés. C'est des députés qui habitent à Montréal. Moi, j'aime bien raconter cette anecdote où à un moment donné, j'ai rencontré Caroline Proulx qui était la ministre du Tourisme et qui était députée, le comté m'échappe, mais c'était quelque part dans la Naudière. Puis on devait la sensibiliser sur un enjeu d'Airbnb. Puis moi, j'avais amené mon collègue Andrés Fontecilla parce que c'était beaucoup un enjeu à Montréal. Puis je me disais, Andrés, il va vraiment expliquer comment ça se passe à Montréal, c'est quoi la réalité, tout ça. Puis à un moment donné, elle me dit, non, mais moi, j'habite dans le plateau Mont-Royal. Tu sais, je la connais, cette réalité-là. Puis ça m'avait frappé de me dire, oh, c'est vrai, il y a des députés qui habitent même pas dans leur circonscription. Même chose avec l'ancien ministre de l'Agriculture. Donc, comment est-ce qu'on peut ramener des réalités puis le ressenti du plancher des vaches quand on va dans notre comté, une fois ou deux par mois, on n'est pas capable d'avoir cette vraie représentativité-là. Puis, depuis qu'on a perdu des instances de développement régional qui étaient importantes, qui étaient des voix qui pouvaient parler au nom des régions, je pense aux conférences régionales des élus, ou dans plusieurs régions du Québec, c'était une organisation qui faisait poids devant le gouvernement. Les fusions de directions régionales de ministères aussi, quand on se retrouve dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, où notre direction régionale de la culture ou même des transports ou de l'agriculture ou peu importe, devient fusionnée avec l'Outaouais, devient fusionnée avec le nord du Québec, ben là, on perd de la proximité avec le terrain, on perd de la représentativité à la fois politique, mais aussi au niveau administratif. Donc, il y a de plus en plus d'interférences parce que quand on se parle, ben on est loin les uns des autres ou on ne connaît pas bien la réalité. Puis ça, c'est un gros enjeu, à mon avis, au Québec parce que c'est du gaspillage. C'est du gaspillage d'énergie, c'est du gaspillage d'argent parce que ce qui est réfléchi à Québec, après, atterrit pas bien sur le plancher des vaches, atterrit pas bien dans les régions. Il y a une perte d'expertise, il y a une perte d'énergie. Puis pendant que on est occupé dans les régions à revendiquer, non, essayez pas de faire ça, là. Nous, ça fonctionnera pas chez nous, c'est pas comme ça que ça marche. À chaque fois qu'on gaspille de l'énergie à se défendre, on n'est pas en train de construire. Ça m'attriste beaucoup parce qu'il y a de la créativité dans les régions, il y a du savoir-faire, il y a du monde brillant, puis on n'est pas capable de mettre ça en valeur parce qu'on gaspille notre temps à constamment se défendre.
Émilie Lessard-Terrien, je le disais, tu es une ancienne députée de Québec solidaire, mais tu as aussi été pendant pas si longtemps co-porte-parole de Québec solidaire avant d'annoncer ton départ de la vie politique. Est-ce que ça a fait partie des raisons pourquoi tu as quitté ça, cette difficulté-là à pousser le besoin réel des régions de se faire entendre?
Ben, c'est sûr qu'il y a un ensemble de circonstances qui a fait que j'ai renoncé à mon poste de co-porte-parole à Québec solidaire. La difficulté de faire avancer les dossiers régionaux en font partie, mais pas seulement, mais à l'heure actuelle, tu sais, même le Parti québécois qui était historiquement le parti des régions, ben, tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, ben il y a les deux pieds à Montréal, puis dans la politique qu'il pratique en ce moment, c'est représentatif de ça. On sent qu'il y a quand même une déconnexion avec les besoins des régions. J'espère qu'en 2020, qu'aux prochaines élections, on va avoir des candidatures fortes qui vont venir des régions, mais en ce moment, on n'a comme pas le goût d'y aller parce que on sent pas qu'on va être à notre place, puis on sent pas qu'on va avoir l'espace pour faire cette politique-là, parce que on est vraiment dans un contexte encore d'austérité où on veut faire des économies de bout de chandelle. Puis, tu sais, là, maintenir des services de proximité dans des petits villages de 300 habitants, là, ben, c'est sûr que ça peut, à la tête de pipe, ça peut avoir l'air de coûter plus cher. Mmh. Mais en même temps, le projet du Québec, ça a été ça, d'occuper le territoire de son ensemble d'est en ouest, puis quand même assez haut dans le nord. On a envoyé des familles défricher des territoires pour occuper ce territoire-là, justement, pour faire de l'agriculture. Puis là, on est en train de laisser tomber cet héritage-là parce que, ben, c'est sûr que quand on regarde coût versus combien de personnes qui sont desservies, ben, c'est sûr que des fois, on trouve que ça coûte cher. Sauf que nous autres, on est encore là, puis on voudrait sauver la sueur de nos ancêtres, comprends-tu, tu sais, qui sont venus ouvrir des terres avec une hache puis des boxeurs. Fait que, comme il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on veut au Québec? Est-ce qu'on veut juste des pôles urbains très forts avec des régions faibles? Puis des régions faibles, ça veut dire qu'on devient de plus en plus dépendant pour la production de nos matières premières, parce que l'agriculture, si on va être capable de nourrir 8 millions de Québécois, ben c'est pas juste sur l'île de Montréal ou dans la communauté métropolitaine de Montréal puis de Québec qu'on va être capable de nourrir ce monde-là si on veut manger local puis pas être dépendant de nos importations. T'sais. Puis là, après, c'est la même chose en foresterie, c'est la même chose dans plein d'autres domaines d'extraction de matières premières. Fait que je pense qu'il faut se la poser, cette question-là. Qu'est-ce qu'on veut au Québec pour l'occupation dynamique de nos territoires et de nos régions? Puis il y a peu de gens en ce moment qui sont sensibles à ces questions-là et qui ont le goût de la provoquer, la discussion.
Puis il y en a même au sein de la CAQ qui ont essayé, je pense à Pierre Dufour, qui a comme invité la CAQ à regarder du côté de l'Abitibi et dire, voyons, on a des élus ici qui seraient peut-être capables d'être ministres responsables de notre région. Parce que là, même le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'était même pas un des députés de la CAQ de la région. Et à ça, François Legault a réagi en sacrant Pierre Dufour à la porte, puis en prenant lui-même la responsabilité de l'Abitibi, comme s'il disait, vous n'êtes pas capable de vous en occuper, regardez, papa Legault là, va venir s'occuper de vous autres en Abitibi. À quel point t'as trouvé ça méprisant pour les régions, puis la région de l'Abitibi en particulier?
Ah, ben j'ai trouvé ça extrêmement méprisant, puis là, c'est sûr que moi, j'ai une implication émotionnelle, parce que quand j'étais en campagne électorale en 2022, mon adversaire politique à la CAQ, c'était le député, il s'appelait Daniel Bernard, là, qui est aujourd'hui député, mm-hmm. mais Daniel Bernard a été député libéral pendant plusieurs années. Donc, les gens, ce qu'ils nous disaient beaucoup quand on les sollicitait pendant la campagne électorale, c'était « Ah, oh, mais on a aimé ce que tu as fait, mais là, on a la chance d'avoir le ministre responsable dans notre circonscription, puis on a des projets importants, puis là, tu sais, Daniel, il y a de l'expérience, fait qu'on va voter pour lui. » Et là, au lendemain de l'élection, non seulement Daniel Bernard n'a pas été nommé ministre, mais aucun des deux autres députés dans la région a été nommé ministre. On est passé sous la tutelle de l'Outaouais pendant un temps avec Mathieu Lacombe, ministre de la Culture. Ensuite de ça, ça a été le ministre du Travail en la personne de Jean Boulet. Après ça, ben là, ça a été François Legault. Fait que oui, ça, c'est une autre attitude méprisante de refus de reconnaître, en fait, que l'Abitibi-Témiscamingue est capable de parler de sa propre voix et qu'on a besoin ici de cette place-là autour du Conseil des ministres pour lever la main une fois de temps en temps et dire, hey, est-ce que vous êtes en train de travailler là comme projet de loi ou comme proposition? Ben, ça ne répond pas à notre réalité pour telle raison. Il faudrait moduler de telle façon. Mais quand on n'a pas cette voix-là, ben là, ça fait qu'on est oublié, tu sais. Puis là, on est trois députés au gouvernement. Ben, puis maintenant, parce que Pierre Dufour s'est fait mettre à la porte, mais pendant longtemps, on avait trois députés au gouvernement qui ne peuvent pas prendre la parole dans l'espace public, dont les communications sont contrôlées. Donc, comment on fait pour revendiquer ensuite nos enjeux, nos besoins quand on n'a pas cette voix-là qui existe à Québec? Puis, tu sais, l'Abitibi-Témiscamingue, on est comme un peu des insulaires, là, avec le parc de la Vérendrye, qui est un peu une mer de forêt, mais qui nous isole des fois du reste du Québec. Donc, sortir nos grands enjeux de notre région, c'est tough. Quand on y arrive, on est content, mais on a besoin d'alliés pour ça. Puis quand on n'en est pas au sein de la classe politique, ben c'est difficile.
Émilie, je vais te laisser là-dessus, mais il y a un texto super intéressant qui est entré via notre diffusion sur Twitch. Là. On dit « Quand une crise frappe, ce sont les régions qui amortissent. Crise alimentaire, crise du logement, crise climatique, crise énergétique. Dans chacune de ces situations, les régions jouent un rôle clé. Elles produisent une part essentielle de notre nourriture. Elles possèdent les terres, l'eau, les compétences. Elles maintiennent des réseaux humains de proximité. Elles savent s'organiser localement, souvent avec peu de moyens. Affaiblir les régions, c'est affaiblir tout le Québec. » Je trouve ça beau.
Oui, c'est absolument vrai. J'ai des frissons. Très beau commentaire.
Émilie Lessard-Terrien, ex-députée de Québec solidaire, chroniqueuse au Journal, publie ce matin une chronique titrée « Bernard, lâche-nous avec le gouvernement des régions ». Émilie, c'est vraiment un plaisir. On fait ça quand tu veux.
Ça marche. Merci infiniment.
Salut.
À bientôt.
Salut, à la prochaine. Émilie Lessard-Terrien, discussion très, très intéressante. Dans les prochaines minutes, c'est Audrey Pinchot qui s'amène pour une discussion qui sera assurément intéressante également. On jase notamment, là, pour vous donner le gros de la photo, et là, bon, c'est pas un jeu de mots avec photo, mais photos envoyées sans consentement, envoyées, en fait, est reçu par des femmes, des fois, sans qu'on s'en... Voyez un peu les dick pics, tout ça. Et tout ce qui est agression, viol et les internets. Fait que, non, discussion bien intéressante. Ça en vient qu'Audrey Pinchot dans l'Open Mic à Boulevard. Le Point Max.